Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour, Sophie Renazé-Garou, je suis lectrice pour l'association Lecture en tête et je reçois pour vous aujourd'hui avec grand plaisir en Mayenne la lumineuse Violaine Béraud. Cette autrice prend le temps de venir nous entretenir dans les locaux de l'autre radio pour cette émission Lecture en tête à tête. Violaine Béraud, romancière, mais Violaine Béraud, poétesse, regard franc, cerclé de petites lunettes d'écailles et un léger accent prompt à nous faire prendre de la hauteur. Violaine Béraud, bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Alors pour vous présenter, vous êtes née à Bagnères-de-Bigorre, en dessous de Tarbes, là, avec le parc national des Pyrénées, près de la frontière espagnole. Et vos deux parents ont été auteurs d'ouvrages sur les Pyrénées pour votre père et de livres jeunesse pour votre mère. Après des études de philo, vous devenez ingénieur en informatique à Toulouse. Et puis à 30 ans, changement radical, retour dans les Pyrénées pour y élever des chèvres et des chevaux en Ariège. Votre premier roman en 94, Jeanne, sera lié... plus tard à votre résidence d'auteur à Laval, du moins c'est à l'occasion de la mise en lumière pour ce premier roman, c'est ça que
l'invitation sera la première fois où je viens à Laval, à l'invitation de Lecture en tête, c'est pour le festival du premier roman, et donc pour mon premier roman, Jeanne, donc c'est très vieux. Donc j'ai dû venir à Laval en 1995 ou 1996, et c'est mon premier contact avec les Lavallois et Lecture en tête, et je crois me souvenir que c'est même la première fois que je parle en public avec des lecteurs. C'est les premiers lecteurs que je rencontre sont des Lavallois.
D'accord.
Ou des Mayennais.
D'accord.
Et après, je reviens beaucoup plus tard, en 2012, pour une résidence d'écriture où je passe 3 mois en Mayenne.
Alors, Jeanne, ce premier roman, c'était déjà une histoire d'amour fou, hein, d'une jeune femme de 19 ans pour une figure d'homme liée aux religieux, en fait, Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, là. Et depuis 20 ans, vos romans paraissent. Et là, on est avec Nuit de noces. C'est votre premier texte poétique paru en 2023 aux éditions La Contralie. C'est une histoire d'amour hors norme, à la forme particulière, une sorte de prose poétique en vers libre, là, avec de nombreuses répétitions entre rythme et ressac. Moi, je dirais, je trouvais ça étonnant pour une femme de la montagne, mais moi j'étais plutôt à la mer, du coup. pouvez-vous juste nous parler, pour débuter, de cette forme du texte ?
Quand j'écris, en règle générale, que ce soit du roman, peu importe ce que je vais écrire, à partir du moment où c'est littéraire, la forme a autant d'importance pour moi que le fond. Écrire, pour moi, c'est pas raconter une histoire, c'est trouver comment je vais raconter cette histoire. Comment, c'est donc la forme. Et il faut que la façon dont c'est écrit en raconte autant que le texte, le contenu du texte lui-même. Même si c'est transparent pour le lecteur, moi, je sais que ça a un impact, que ça a un effet. Et quand j'ai commencé à écrire cette histoire, la forme qui m'est venue naturellement, au lieu d'être ce que je fais habituellement, c'est-à-dire des phrases normales ou à peu près normales, c'était une forme de vers libre qui me permettait de casser la syntaxe de la phrase, de faire des répétitions beaucoup plus nombreuses que je ne pourrais me le permettre dans une phrase normale, et de vraiment tordre le langage pour faire ressortir certaines parties du texte, certains mots, certaines expressions. Et en plus aussi, dans le vers libre, il y a l'apparence physique, je pourrais dire presque, du texte qui fait ressortir certains mots. Les retours à la ligne permettent de mettre en évidence certains mots par rapport à d'autres.
Ouais, je pense même que le visuel nous incite aussi fréquemment à relire, comme un haïku, en fait,
oui.
Certaines petites césures-là.
Oui, oui, il y a un aspect physique du texte, oui.
Alors, le flux du propos, l'ininterrompu là, des pensées, ça prend la forme d'une voix, celle du personnage, une femme, pour elle-même, semble-t-il. Elle se raconte son histoire plus qu'elle ne nous la compte. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. On est un peu posé en voyeur quoi, de cette histoire-là entre une jeune fille de moins de 20 ans et le prêtre de son village. Donc si on dit que c'est un monologue intérieur là, de 96 pages, vous êtes d'accord ?
Oui, ça peut être ça. C'est soit un monologue intérieur, soit elle nous le raconte. C'est pas bien défini pour moi. Ça fait partie des choses que je laisse volontairement flou pour que chacun puisse l'interpréter comme il veut. Donc vous l'interprétez comme un monologue intérieur, ça me va très bien.
Bon. Alors vous n'en faites pas mystère, cette femme, c'est votre mère. Vous qui avez toujours écrit sur l'intime, sur les émotions, les relations complexes, dont filiales, comme l'inceste avec Léo et Lola en 96, là par exemple. Comment est venue cette envie de parler de vos proches ?
Jusqu'à présent, moi j'écrivais du roman, c'est-à-dire de la fiction, des choses inventées, même si ça peut aller voler des petites choses dans ma vie, mais l'histoire générale était inventée. Et après, c'est les hasards de la vie. À la mort de mon père, devant la douleur inconsolable de ma mère, je me suis dit comment puis-je faire pour l'aider ? Or, ma mère aime bien lire, elle aime bien me lire. Et je me suis dit que le cadeau que je pourrais lui faire, c'est d'écrire leur histoire, puisqu'elle ne veut parler de rien d'autre que de leur histoire. Elle est totalement obsédée par ça. Ma mère, c'est vraiment ce texte-là, Nuit de noces. Ma mère est une femme amoureuse, passionnée, qui ne pense à rien d'autre, qui toute sa vie n'a pensé à rien d'autre qu'à cet amour-là. Rien ne compte en dehors de ça. Donc, quel cadeau lui faire, sinon réécrire cette histoire pour elle. Et c'est ça. Le point de départ de Nuit de noces, au départ, ce n'est pas un livre à publier, c'est un livre écrit pour elle, pour raconter d'une autre façon son histoire.
Alors merci de nous le partager.
Hein. C'est elle qui, à la lecture, m'a dit « Si tu veux me faire un deuxième cadeau, fais-le
beau,
publier.
Ouais. » Alors moi, j'ai tiré des fils en fait, entre ce texte et vos précédents romans, pour autant. Dans Pas moins que lui, en 2013, là, qui traitait des 20 ans d'attente de Pénélope, là, historiquement, il y avait déjà ce temps étiré de l'attente, donc oui. de la longue période où on ne nous permet pas, où on ne sait pas même si les choses adviendront, ces éternités-là. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans ce roman, il y a 10 ans, en germe, la figure de votre mère avec ses 6 ans plus 1 ?
Mais je crois que au bout de 30 ans d'écriture et une douzaine de textes publiés, forcément il y a des liens entre tous les textes parce que derrière c'est toujours la même personne qui écrit. Donc on a tous les auteurs ou tous les artistes, on a nos obsessions dont on a conscience ou pas. Hein. Moi j'en découvre certaines en découvrant mes propres textes, en me lisant moi-même. Et donc reviennent, il y a des sujets qui reviennent quand j'écris Pas moins que lui, qui reprendront donc l'Odyssée d'Homère à l'envers par le point de vue de Pénélope sur l'attente d'Ulysse. Je ne pense pas du tout à mes parents quand j'écris ça, je ne pense pas du tout à ma mère. Et quand j'écris Nuit de noces, qui est l'histoire d'amour incroyable de mes parents avec une longue phase d'attente, puisque mon père était prêtre, et donc il y a 6 ans plus 1, 7 ans d'attente, avant qu'il abandonne la prêtrise, je fais pas du tout le lien que vous faites avec mon précédent livre écrit 10 ans plus tôt. Moi, je ne vois pas les liens entre mes livres. Et ce sont les lecteurs qui mettent le doigt sur les livres, aussi pour une raison simple, qui est que vous lisez souvent les livres dans le temps de façon assez proche. Et moi, je peux avoir 10 ans ou 30 ans d'écart entre l'écriture de deux livres, et donc je fais pas le lien forcément. Et puis en plus, on ne voit jamais rien sur soi-même, c'est les autres qui voient les choses.
Alors, de même, l'emprise amoureuse, c'est autre chose que j'ai vu, moi. Donc, le sujet de Nu sous la lune en 2017, c'était l'obsession hein, de votre personnage féminin dans Nuit de noces. Est-ce que ça lui est d'une certaine façon comparable ? Oui, je pense que...
Sur l'emprise amoureuse, j'ai écrit un livre très dur qui s'appelle « Nu sous la lune », mais qui est vraiment sur l'amour toxique, la destruction de quelqu'un par l'autre dans le couple. Là, dans « Nuit de noces », c'est pas une relation de destruction. Il y a quand même une forme d'emprise, mais c'est pas de la destruction, C'est la passion sans aller jusqu'à la destruction, quoi, jusqu'à la destruction de l'autre. Mais elle se détruit peut-être elle-même. C'est une autre façon de, d'ennui de noces. Peut-être que l'amour devient dangereux parce qu'il prend trop de place et qu'à force, il devient tellement obsessionnel qu'elle-même n'arrive plus à gérer ce trop d'amour. Quoi,
Avec des périodes difficiles.
Avec des périodes difficiles, oui, tout à fait.
Alors, Violaine Béraud, vous avez beaucoup écrit sur les douleurs tues. Ce livre est-il lui aussi une analyse ou une mise en abîme, en fait, de ce qui a dû être un gouffre de souffrance aussi, moi, je pense, hein, pour cette femme. Vous lui donnez la parole intérieure, mais est-ce qu'elle l'a prise, elle, réellement? Ou bien est-ce, pour une large part, votre propre souffrance de la difficulté à trouver sa place pour grandir dans l'ombre d'un si grand amour, là, dont vous parlez?
En fait, j'analyse pas tout ça quand j'écris, mais ce que je peux dire au départ, quand je veux écrire Nuit de noces, donc je veux écrire pour ma mère et je veux écrire au départ depuis ma place de fille. Donc je commence à écrire ce texte à la troisième personne. Je parle d'elle et lui. Elle et lui. Et en fait, quand je l'écris comme ça, ça ne marche pas. Et très vite, je me rends compte qu'il faut que j'écrive le texte à la première personne, à sa place, à elle, ma mère. Et ça fait partie des mystères de l'écriture, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui le décide, c'est mon stylo qui un jour écrit « je » à la place de « elle ». Et je me rends compte que ça marche mieux avec « je » écrit. Pourquoi j'écris ça? Je l'analyse beaucoup plus tard. Je me dis que oui, avoir écrit ce livre m'aide à comprendre ma difficulté de fille, par exemple, face à mes propres histoires amoureuses, parce que quand on a grandi avec comme modèle un amour aussi intense, comment on arrive derrière à construire sa vie amoureuse? Mais ça, c'est presque le sujet d'un autre de mes romans qui s'appelait « Des mots jamais dits », sur lequel j'avais déjà travaillé sur ça. Dans ce livre-là, dans « Nuit de noces », c'est plutôt un livre qui me permet d'aller fouiller l'intimité du ressenti de ma mère qu'elle ne m'a jamais dit. Mais moi, je ne faisais que regarder avec mes yeux d'enfant un homme et une femme qui s'aimaient de façon passionnée. Aucun de mes copains d'école n'avait l'air d'avoir des parents qui s'aimaient de cette façon-là. Et en même temps, une femme qui était malheureuse dans cet amour, qui n'arrivait pas à être en permanence heureuse, je ne comprenais pas pourquoi. Donc ce livre, c'était aussi pour fouiller cet amour fou qui peut amener par moments jusqu'à la dépression, alors que ça paraît incroyable puisqu'elle a obtenu ce qu'elle voulait.
Mmh. Ce paradoxe-là, quoi.
Oui.
Oui, j'avais noté aussi ce rapport au lien de famille, la relation mère-fille surtout, en fait, et la place difficile à trouver comme ça dans Des mots jamais dits en 2015. Ouais. Je vais vous demander une lecture, Violaine Béraud. Vous nous feriez ce plaisir?
Je vais vous lire le début du livre. Dès le premier moment, aperçu et aimé instantanément, lui, l'homme interdit, le prêtre, là, devant la foule. Dès le premier moment, convaincu, moi, que lui serait l'homme de ma vie. Et mon propre père, sévère, dur, une terreur, mon propre père qui veillait sur moi comme les poules sur leurs grains, mon propre père disait qu'elle aille à la messe, là au moins elle ne rencontrera pas de garçon. Mon propre père, bien pris à son propre piège. 19 ans et demi j'avais, pas même 20. Et pourtant, l'absolue certitude, l'instantanée certitude, lui et aucun autre, lui, l'homme interdit, l'homme de messe, pour moi, rien que pour moi. Et de l'adversaire, même pas peur. Pourtant, l'adversaire, pas une femme, pas une jolie fille, non, bien mieux, bien plus grand, bien plus fort, l'adversaire suprême, Dieu, Dieu et toute la Sainte Église, et moi j'avais 19 ans et demi, et même pas peur, même pas.
Merci. Je n'ai pas précisé, mais il y a S à nuit dans Nuit de noces. Et toute la pérennité, la permanence, presque l'éternité de cet amour est lovée dans ce S-là, qui dit que les choses tant attendues vont ensuite durer la vie entière. D'où vous est venue cette trouvaille?
C'est compliqué de trouver un titre pour un livre. Et en l'écrivant, l'idée des nuits de noces, à partir du moment où ils se marient, et de la première nuit de noces, il y a toute une page sur cette première nuit de noces qui en fait débouche sur un ensemble, une infinité de nuits de noces derrière. Et je me suis dit que c'était ça, cet amour. C'était des nuits de noces qui se répètent en permanence et dont elle veut que ça se répète toujours, que ça ne s'arrête jamais. Donc pour moi, ce S de nuit de noces est fondamental. Merci de l'avoir souligné.
Alors j'aimerais qu'on écoute le morceau que vous aviez choisi, Violaine Béraud, de Sylvia Pérez-Cruz. Vous voulez nous en dire un mot ?
Alors je n'ai pas choisi un morceau, j'ai choisi une interprète. J'adore la voix de cette fille-là, donc je vais avoir la surprise du morceau choisi.
A poc el coll se tensa, net i fort el sino i blat, flors i enciams d'ovella noble, veus el toll emocionat. El pagès d'Orbiu ens canta,
bien toujours sur l'autre radio dans l'émission Lecture en tête à tête avec Violaine Béraud. On avait évoqué ce S à nuit de noces. Un autre détail a retenu mon attention de lectrice. De multiples fois, il y a un rire, aha, et qui vient faire grincer ou évoquer un trait d'humour, plus souvent souligner une ironie de situation. Quel rôle a pour vous cette petite mention rare, je crois, en poésie ?
Oui, il y a haha deux fois, il y a pfft pfft deux fois et il y a poids deux fois aussi. Pour moi, c'est venu naturellement. C'est quelque chose pour rendre vivant, je pense, hein, pour rendre vivant le texte. Et quand je le lis en public, c'est des passages qui sont importants pour moi. En fait, ça décale un peu par rapport au langage normal. Et puis ça dit le poids, par exemple, cet écœurement, il n'y a pas de mot vraiment pour dire ça, à part poids. Et voilà, dans sa tête, c'est comme ça, et ça me vient comme ça dans le stylo quand j'écris.
Pour avoir eu la chance de la rencontrer, je vous comparerais volontiers à Marlène Tissot.
Ah, alors ça, c'est un des plus beaux compliments pour moi, parce que j'ai une admiration sans borne pour la poésie de Marlène Tissot. Je lis très très peu de poésie, et la simplicité de la poésie de Marlène Tissot est extraordinaire. C'est pour moi, je connais peu la poésie, mais dans ce que je connais de la poésie en langue française, Marlène Tissot est la référence absolue, sincèrement.
Mais voilà, moi il me semblait qu'il y avait vraiment quelque chose de commun dans l'intime écrit, livré comme ça, et je voulais demander si c'était un hasard, si c'était juste dans ma tête, si c'était incongru.
Je me demande même si j'aurais osé écrire un livre en vers libre si je n'avais pas lu les textes de Marlène Tissot.
Alors, merci à elle.
Merci, voilà. Et du coup, je n'ai pas de contact avec Marlène, mais de loin, je lui dis merci.
Pour finir, Violaine Béraud, peut-on vous demander quels sont vos projets? Un autre processus d'écriture est-il à l'œuvre, là? Et si oui, est-ce que vous revenez au roman?
Oui, je suis en fin de processus d'écriture d'un roman. C'est compliqué parce que j'ai le texte entier écrit et c'est pas bon, donc ça me convient pas, donc je suis en permanence en train de le recasser, de le refaire. J'ai toujours l'impression que j'aurai fini à la fin de la semaine, et ça fait au moins 6 mois que je me dis ça toutes les semaines.
Ça fait une longue semaine.
Donc c'est une longue semaine, donc c'est pas un moment très agréable, mais je ne le tiens pas encore, donc tant que je le tiens pas, je me remets à l'ouvrage et j'essaie d'autres choses. Et je pense, quand j'aurai enfin fini ça, si j'arrive à le finir, je reviendrai, je pense, vers une forme proche de celle de Nuit de Noces pour écrire des courts textes, enfin sous forme de poèmes, on pourrait dire, liés à une expérience personnelle que j'ai jamais réussi à vraiment mettre dans un roman, sinon un petit peu peut-être dans un roman qui s'appelait Comme des bêtes, mais je voudrais vraiment raconter une réalité qui est une expérience que j'ai vécue. Quand j'étais éleveur, pendant 12 ans de ma vie, j'ai eu des bêtes, j'ai été éleveur. Et pendant quelques années, dans ces 12 ans-là, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient en hôpital psychiatrique. Et je veux raconter la réalité extraordinaire de la mise en... De ce qui se passait, j'ai même pas de mots, je ne sais pas comment le dire, de la communication extraordinaire entre ces enfants et les animaux. Et cette forme en vers libre est la forme qui me convient pour écrire ça. J'ai déjà commencé à écrire quelques petits textes et je pense que ça va marcher comme ça. Donc voilà, mes deux projets sont ceux-là.
Il y aura peut-être aussi cette possibilité du coup de la voix non... La voix intérieure ou de la
oui,
la chose
ou de,
non oralisée,
ou là je l'écris à la troisième personne. C'est-à-dire que je vais parler d'un petit garçon, d'une petite fille, d'un cheval, d'une chèvre. Mais le fait de pouvoir casser la langue, toujours pareil, de pouvoir répéter, de pouvoir revenir, ça peut donner les obsessions, les troubles de ces enfants. Enfin, il y a quelque chose qui me va bien avec ce montage, avec cette langue-là. Mais ouais. Ça, voilà, c'est un projet pour loin, mais que j'ai déjà en tête.
Mais qui nous va bien aussi. Alors avant de se quitter, on va écouter un autre morceau musical de votre choix, c'est Garçon de Martin Luminet.
Ça fait quoi d'être un garçon? Pas un homme, un garçon. Ce truc pas clair entre personnes dont on n'attend rien vraiment, mais qui peut nous décevoir terriblement. Ça fait quoi d'être un garçon, d'être... entre un enfant de 30 ans et un adulte qui fait ses dents. Ça fait quoi d'être un garçon bien dans sa vie, bien dans son temps, qui regarde pas les autres garçons de son âge comme des gens bien plus grands? Ça fait quoi d'être pris pour un garçon? Soit génial, soit gênant. Ça fait quoi d'être un garçon dont tu sais déjà que certaines personnes aimeraient bien voir ta voiture dans un trou, aimeraient bien voir leur voiture dans ta joue, Ça fait quoi d'être un garçon un peu fiancé avec le passé, qui parle de l'amour et de la vie, sans avoir jamais mis les pieds? Ça fait quoi d'être un garçon, avec un monstre dans le cœur? Un monstre dans le cœur. Un monstre. Un monstre. Ça fait quoi d'être un garçon qui aimerait tellement faire le bien, mais qui tue tout ce qui touche, qui goûte aux gens et qui les repose, à moitié croqué sur la touche? Ça fait quoi d'être un mauvais garçon qui se fait passer pour quelqu'un de bien, qu'en est là, qui fait semblant d'être comme tout le monde, mais qui n'est pas fait pour ce monde? Non, non, ça fait quoi d'être dans la peau du garçon attachant, mais dont il faut pas s'attacher, qui se répète jour et nuit, comment t'as pu faire ça? Dans le miroir crade de l'estime de soi, ça fait quoi d'être un garçon qui fait semblant tout le temps, tout le temps, qui dit que l'amour y'a que ça de beau, y'a que ça de grand, y'a que ça d'indispensable, mais qui lui en est clairement incapable, qui dit à tout le monde comment faudrait faire, qui comprend tout mais qui fait tout le contraire? Ça fait quoi d'être le problème et à la fois la clé? Ça fait quoi d'être dans la peau du putain de marin qui sait pas nager? Ça fait quoi d'être un garçon qui aura pas la vie bien parfaite, qui voit le couple comme un monstre à deux têtes? Ça fait quoi d'être un garçon à qui on demande d'être bien sage, sage comme un orage, sage comme un naufrage, mais qui sera sage comme un carnage, qui regarde certains parents avec un peu de rage, qui sait pas si lui-même il est né d'un amour ou d'un mariage? Le plus dur. Ça fait quoi d'être un garçon qui a peur de tout, mais avant tout de soi? Ça fait quoi d'être le seul garçon qui se retourne dans les cinémas, qui trouve que la vie est un film mal réalisé, qui prétend que la faiblesse, c'est aussi la beauté, que sa langue maternelle, c'est plutôt des regrets, qui écrit et qui chante, car il sait pas parler?
Un grand, grand merci, Violaine Béraud, d'être venue sur les ondes de l'autre radio, sur l'invitation de l'association Lecture en Tête. Merci.
Merci à vous.